Bienvenue sur My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Jacobi. On est entrepreneurs et spécialistes en marketing chez My Marketing Experience depuis plus de 10 ans. Et on est sœurs depuis toujours.
Après avoir accompagné des centaines de dirigeantes et de dirigeants, on sait que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui investissent dans le marketing et pas l'inverse. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre le marketing accessible, pragmatique et fun.
Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit.
Ici, au travers d'épisodes en solo et avec des invités, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Et de temps en temps, on propose des épisodes en duo pour vous partager sans filtre notre parcours d'entrepreneur.
Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain Clos, qui est un blogueur professionnel qui a réussi, lui, à se lancer, à quitter son job salarié pour vivre de sa passion. Et aujourd'hui, il va venir nous parler d'affiliation, qui est le business model de Romain. Et il va venir nous en parler comme s'il était à la place d'une marque pour vous donner les meilleurs conseils en tant qu'annonceur pour réussir vos programmes d'affiliation. Salut Romain.
Salut Sandy.
J'ai commencé à te suivre par curiosité sur LinkedIn parce qu'on ne voit pas tellement de personnes qui parlent d'affiliation, encore moins des blogueurs, on va dire des personnes qui l'utilisent pour en vivre. Et j'ai eu envie de t'inviter pour que tu viennes nous en parler et surtout pour que tu donnes des conseils aux entreprises qui voudraient mettre en place ce système d'acquisition de clients, puisque c'est bien de ça dont on parle.
Oui, tout à fait. Je vais faire ce travail-là de me mettre dans les baskets d'un annonceur, d'un marchand qui souhaite avoir des affiliés pour relayer ses produits ou ses services.
Donc moi, ma première question, pour que tout soit clair d'entrée, c'est qu'est-ce qu'on définit comme de l'affiliation ?
En fait, c'est tout simple. C'est de la recommandation. Donc en fait, c'est entre deux et trois acteurs. Le troisième acteur est optionnel. Mais il vous faut un annonceur, donc une marque, un affilié, ce qu'on appelle aussi un éditeur, dans le jargon, un éditeur, un créateur de contenu. Enfin, l'affilié va relayer, va mettre en avant vos produits ou services pour faire des ventes et être commissionné par rapport aux ventes qu'il va générer. Donc en fait, vous allez verser des commissions à un réseau d'affiliés qui est là pour mettre en avant vos produits et vos services. Et le troisième acteur qui est optionnel mais qu'on voit la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle une plateforme d'affiliation qui ne fait que réunir finalement ces deux acteurs, l'un avec un besoin et l'autre avec une force de frappe qui peut lui apporter son service. En fait, des affiliés, c'est un peu comme vos VRP finalement.
Ce que j'allais te dire, c'est comme des petits commerciaux partout en fait.
Exactement. En fait, vous démultipliez votre force commerciale avec votre réseau d'affiliés.
Et toi, concrètement, sur ton blog, ça se passe comment ? Parce que toi, tu as un blog de décoration d'intérieur. Qu'on peut citer d'ailleurs, c'est forintérieur.fr. Tu monétises ton blog avec de l'affiliation.
Exactement. Donc moi, je crée des contenus, je suis un créateur de contenu. Mon blog, c'est un média dans la décoration intérieure. Et je me suis fait une spécialité avec le référencement naturel. Donc mon objectif, c'est de trouver les mots-clés qui vont intéresser mon audience, qui sont recherchés par mon audience dans les moteurs de recherche. Les internautes arrivent, après avoir fait leur recherche dans Google, par exemple, sur un de mes articles. Et dans mon article, je vais mettre en place un tunnel qui va amener la personne à considérer l'achat d'un produit que je recommande. Et donc, il va cliquer sur une image, sur un bouton pour acheter le produit, pour voir le prix, par exemple. Il va arriver sur un Maison du Monde, sur un La Redoute, sur un site qui vend de la déco. Dans le lien que je mets sur mon site, il y a un ID, donc un identifiant de tracking, qui indique à l'annonceur, au marchand, mettons à La Redoute, que cet internaute, il vient depuis mon blog Fort Intérieur. Du coup, si cet internaute achète des produits sur un La Redoute va me verser une rétro-commission, donc c'est un pourcentage du panier de l'acheteur, au titre d'apporteur d'affaires. Donc c'est une commission au titre d'apporteur d'affaires. Et pour le client, c'est $1 parce qu'il paye le même prix finalement.
Ok, c'est super clair, merci beaucoup. Donc en fait, pour résumer, à partir du moment où un internaute vient sur... Alors là, on parle de ton blog, mais ça pourrait être sur un autre site, il est identifié comme venant de la part de Romain. En
fait. Exactement. Et on peut faire ça sur plein de médias, en fait. Tu n'es pas obligé d'avoir un blog. Tu peux faire ça sur une vidéo YouTube, tu peux faire ça au sein de ta newsletter, au sein de tes réseaux sociaux, même sur un épisode de podcast. Tu pourrais très bien mettre dans la description d'épisode Voilà, on a parlé de tel logiciel SaaS, voici mon lien affilié, cliquez dessus si vous êtes intéressé.
Moi, ce que je voulais être super clair, c'est qu'en fait, globalement, c'est un modèle qui existe depuis la nuit des temps, quasiment, la recommandation, mais juste qu'aujourd'hui, bah, grâce à tous les outils qu'on a dans le digital, on peut le digitaliser et du coup, ça démultiplie encore plus parce qu'on n'est pas obligé d'aller chercher un à un, c'est beaucoup plus simple. Si je suis aujourd'hui une marque, alors B2C, B2B, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est très connu pour le B2C, mais aujourd'hui, c'est un modèle qui se répand aussi en B2B. Il ne faut pas se mettre de barrière. Si je suis une marque et que je veux mettre ça en place, quel est le plan d'action que tu nous recommandes de mettre en place ? Les étapes, est-ce que tu as des étapes à nous partager ?
Oui, bien sûr. Donc en fait, au niveau des différentes étapes, si on les balaye rapidement, je dirais que la première chose, c'est de définir son objectif. La deuxième, c'est de choisir un modèle de commissionnement qui va être adapté aux produits ou aux services qu'on veut promouvoir. Ensuite, il va falloir sélectionner une plateforme, parce que quand on démarre, je ne pense pas que l'entreprise va vouloir investir dans son propre programme d'affiliation, monter toute l'infrastructure technique pour créer son propre programme d'affiliation, en tout cas, moi, je le déconseille.
Là, pour le coup, il y a des coûts.
Oui, là, il y a beaucoup de coûts, parce qu'il faut gérer tout le tracking, la data, donc il vaut mieux se reposer sur des plateformes. En plus, les tickets d'entrée sur ces plateformes-là ne sont pas très élevés. Il y a vraiment des plateformes qui sont assez low cost par rapport aux fees qu'ils demandent pour intégrer ces plateformes. Ensuite, ça va être d'identifier les affiliés. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est de bien choisir les affiliés qui vont correspondre à notre image de marque. En cinquième, c'est de faire des propositions incitatives. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis un affilié, il faut m'encourager à promouvoir tes produits en tant que marque.
Il faut incentiver en fait, son équipe de vente, quoi.
Exactement, comme des commerciaux. Et le dernier point, c'est entretenir la relation. Et là, il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas, qui ne le font même pas, en fait. C'est même pas qu'ils ne savent pas le faire, c'est qu'ils ne le font même pas, ils n'investissent pas réellement dans la relation avec leurs affiliés. Et ça, c'est vraiment dommage.
Ok, bah je te propose qu'on parcourt toutes ces étapes ensemble. Moi, j'aime bien l'image que tu as prise de dire qu'il faut imaginer que vous avez des commerciaux, en fait, des VRP partout. Et donc, peut-être ce qu'on peut déjà dire, c'est de commencer déjà dans votre tête à imaginer que ce ne sont pas juste d'autres entreprises, mais des êtres humains qui sont en bout de chaîne et qui vont bosser pour vous. Donc, ils ne sont pas salariés, mais ils sont là pour vendre vos produits. Si je reprends, ta première étape, c'était de définir des objectifs. C'est une super première étape. Comment on peut les définir, ces objectifs ?
Comme je te le disais, il y a différents modèles de rémunération et il y a des modèles qui vont être plus adaptés à certains objectifs. Typiquement, si on prend un objectif qui va être l'augmentation des ventes, qui est l'objectif quand même qu'on retrouve le plus fréquemment, on va plutôt aller chercher un modèle de rémunération où on va donner un pourcentage sur le volume de chiffre d'affaires que va générer l'affilié. Par contre, si on veut augmenter la visibilité et qu'on est une jeune marque qui débute, qui n'a pas de notoriété, là, on va être plus incitatif. Parce que si on se met à la place de l'affilié, on va dire que tu es la jeune marque, tu viens de lancer, mettons, ta marque de cosmétiques. Tu viens me voir, j'ai un blog de mode, lifestyle, beauté. Moi, je ne te connais pas, personne ne te connaît dans mon écosystème. Donc, toi, ton but, ça va être de booster la notoriété de ta marque. Moi, en tant qu'affilié, si je recommande tes produits et qu'il n'y a pas de vente parce que le consommateur final, bah, il n'a pas encore confiance sur ton site internet, il ne te connaît pas, il ne va pas forcément bien convertir. Donc moi, je vais être lésé parce que le coût de production pour créer des contenus, vidéos, articles de blog, réseaux sociaux, etc., va être le même pour une marque comme la tienne, dont personne n'a jamais entendu parler, et pour la marque la plus connue dans notre industrie. Mais je sais que moi, mes internautes vont plus convertir sur la marque qui est la plus connue, parce qu'il y a la confiance, il y a la réassurance qui est là, que sur cette jeune marque sur laquelle on va parier. Donc là, tu vas plutôt utiliser un modèle de rémunération au coût par clic. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais t'envoyer des clics, tu vas me rémunérer de quelques centimes par clic. Donc là, pour toi, ça va être certes un budget, parce que tu vas pas savoir quel va être le ROI de cette campagne-là, mais on est sur de la notoriété, on est sur acquérir de la visibilité très rapidement, comme si tu le ferais, si tu le faisais sur une campagne publicitaire finalement.
Donc là, on est plus sur du branding.
Exactement.
Au limite, après, on pourra dire si on est ou cité par un blog influent ou cité par un créateur influent, on pourra même dire derrière, vu sur tel blog, par exemple. Donc là, c'est plutôt un investissement en termes de branding, alors que ce que tu disais avant, c'est un objectif de visibilité, alors qu'on peut aussi avoir un objectif d'augmentation des ventes, ce qui est probablement le plus courant, mais ne pas oublier que l'objectif de visibilité est un objectif tout à fait acceptable et qui peut même être super efficace. D'ailleurs, si t'es pas connu encore sur un marché, ça peut être génial. Ok, donc j'ai soit objectif de vente, soit objectif de visibilité. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à savoir pour définir mon objectif ?
Non, simplement de définir un objectif qui soit smart, donc à la fois spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc typiquement, un exemple, ça peut être « je souhaite doubler les ventes d'ici les 6 prochains mois ».
Tu dirais que les objectifs, il faut les fixer sur 6 mois ou plus court terme ?
Ah non, ça dépend complètement de la stratégie de l'entreprise et du budget qu'elle va allouer à cette poche marketing-là, en fait.
Donc, une fois que j'ai défini mes objectifs, qui étaient l'étape 1, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire en étape 2?
Donc, c'est choisir le modèle de rémunération. Donc là, on en a un peu parlé. On va avoir trois modèles de rémunération qui sont très fréquents dans l'affiliation. Le plus connu, c'est le coût par acquisition, donc le CPA, qui est vraiment le plus connu. C'est-à-dire que en tant qu'affilié, je t'amène un client qui va dépenser 100 euros chez toi. J'ai une commission, donc un CPA de 10%, donc tu vas me donner une commission de 10 euros sur les 100 euros que j'ai générés en chiffre d'affaires pour toi. C'est le modèle standard. Donc c'est valable pour des e-commerçants, des services par abonnement, donc des SaaS. Typiquement, vous avez un logiciel comme ActiveCampaign. Vous passez par des blogueurs qui font du coaching business et qui vont expliquer à leurs coachés, voilà, moi j'utilise ActiveCampaign pour mes campagnes d'emailing. Voilà mon lien affilié si ça t'intéresse et je te fais un tuto. Parce que oui, en tant qu'affilié, on est là aussi pour faciliter l'achat. Donc on est là pour donner des ressources à notre audience pour qu'ils aient envie aussi de prendre le produit ou le service.
Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de SaaS et beaucoup de plateformes en ligne. Je pense à Notion, je pense à HubSpot, qui ont ces programmes d'affiliés pour vendre de professionnel à professionnel. D'ailleurs, on ne parle même plus de particuliers. Notion avait fait d'ailleurs beaucoup de campagnes. Moi, je suis spammée d'ailleurs sur Notion qui m'incite à être affiliée. Donc, eux, ils ont un réel intérêt à trouver. Finalement, ce sont des ambassadeurs. C'est un terme qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, mais c'est comme des ambassadeurs.
Oui, on nous appelle influenceurs, affiliés, ambassadeurs. Après, l'influenceur, ça a plus une connotation réseaux sociaux, mais on peut effectivement parler d'ambassadeur ou d'influenceur. Et d'ailleurs, là, tu mentionnes des SaaS, donc des logiciels. Il faut savoir que le modèle le plus vertueux pour un affilié aujourd'hui, c'est les SaaS. Parce qu'en fait, c'est un logiciel par abonnement. Donc, si moi, en tant qu'affilié de Canva Pro, je te fais une vente et que tant que tu restes abonné à Canva Pro, je touche une commission mensuelle sur ton abonnement. Donc là, tu as un effet cumulé de fou par rapport à ça en tant qu'affilié. Et tu peux d'ailleurs aussi, en tant qu'affilié, promouvoir des formations aussi. Parce qu'en fait, le CPA, donc le pourcentage de rémunération que tu vas avoir, quand c'est du marché physique, comme moi dans la déco, il y a des coûts logistiques, il y a des frais d'envoi, il y a des frais de retour, etc. Donc en fait, le commissionnement, il est entre 7 et 12% en moyenne. Alors que sur des SaaS ou des formations, des produits complètement digitaux ou des services, tu peux aller à 20, 30, 50, 75% en fait.
Plus il y a de la marge et plus tu peux te permettre d'offrir un pourcentage de rémunération, enfin de commission important à ton affilié.
Exactement.
Donc il y a le CPA, le coût par action. Tu nous as parlé tout à l'heure du coût par clic qui était intéressant pour développer sa visibilité. Où là, dans ce cas-là, on va rémunérer au clic. Et il y en a un troisième.
Qui est le coût par lead. Donc celui-là, on ne le voit pas très souvent. Il est très spécifique en termes de niche. Moi, dans mon secteur, je le vois beaucoup chez les cuisinistes. Donc, par exemple, c'est la demande d'envoi d'un catalogue de cuisine. Donc, par exemple, moi, je vais produire un article sur comment agencer une cuisine en L. Donc, voilà, je vais faire mon article et à la fin, je vais proposer un call to action, donc un CTA, qui va inviter l'internaute à télécharger le magazine,
le catalogue
de tel cuisiniste qui propose ce genre de cuisine. Et à chaque fois que je vais envoyer sur la landing page et que l'internaute va laisser son nom et son adresse mail pour recevoir le catalogue, bah, le cuisiniste va me commissionner d'un montant forfaitaire pour l'apport de ce prospect qualifié. Parce qu'en fait, il estime que ce prospect, lui, il est capable de le transformer en client derrière. Donc moi, j'ai fait le travail en avant-vente et lui, il va essayer de convertir le prospect chaud en client.
Moi, ça, c'est un modèle que j'ai rencontré plusieurs fois avec des clients qui sont sur des cycles de vente très longs. Et qui ont des paniers moyens assez élevés et qui vont, comme le coût par lead est élevé, en fait, ils peuvent faire appel à des créateurs de contenu spécialisés, souvent c'est des médias, hein, tout simplement, qui vont proposer ça. Et donc, je vais être honnête, des fois, le lead, ça va jusqu'à 250 euros. Hein, ça peut être très élevé, mais comme le panier moyen, il est de plusieurs dizaines de milliers d'euros, bah, ça se tente, quoi. Je veux dire, si derrière, ça convertit, il suffit d'en convertir même 1 sur 20, c'est rentable, en fait. Donc ça, c'est un modèle qui n'est pas si répandu, mais qui, à mon sens, est hyper porteur, surtout sur des cycles de vente qui peuvent être très longs.
Et c'est pas anodin, ce que tu disais, c'est qu'on le retrouve principalement dans les services financiers, dans l'assurance et dans l'immobilier, qui sont des domaines où le panier moyen est relativement élevé, finalement.
Mais où tu peux, du coup, te permettre d'acheter des leads un peu plus chers.
Exactement.
Ok, donc un lead, hein, on le dit, un lead, ce n'est pas une vente, je vais juste le répéter. Un lead, c'est un contact, c'est les coordonnées d'un contact qui peut être rappelé derrière par un commercial. On n'est pas sur de la vente, mais parce que ce sont, de toute façon, en général, des biens et des services qui ne sont pas vendus en ligne, où il y a une interaction avec une force commerciale derrière, avec un être humain. Si je passe à l'étape 3, qu'est-ce que je dois faire?
Donc après, il faut que tu sélectionnes la plateforme d'affiliation avec laquelle tu veux travailler. Donc là, tu vas avoir plusieurs critères de choix. Le suivi qui est fiable. Est-ce que la plateforme permet d'avoir un suivi qui est fiable entre tes affiliés, tes conversions, les commissionnements que tu dois donner à tes affiliés, etc. Est-ce que les paiements sont organisés de manière ponctuelle? Est-ce que l'interface est intuitive? Et c'est surtout, regarder dans ton réseau, dans ton écosystème, s'il y a déjà des entreprises autour de toi qui utilisent certaines plateformes et demander quel est le feedback.
Donc là, c'est bien de demander un peu l'avis des autres pour savoir quelle est la bonne plateforme pour soi. Est-ce qu'il y a des plateformes qui sont spécialisées dans certains types d'affiliations ou certains types de produits?
Oui. Alors, il y a des plateformes qui sont plus spécialisées dans les produits digitaux, d'autres qui vont être plus spécialisées dans les produits physiques. Après, globalement, elles sont quand même assez généralistes, la plupart. Donc, les principales, ça va être, en tout cas, moi, dans mon domaine des produits physiques, ça va être Affiliation, Affilae, Ewin, Rakuten, Impact, Panko. Enfin, il en existe, je crois que j'ai un PDF avec 4 pages de plateformes d'affiliation.
On mettra quelques références en description pour aider.
Ouais, avec grand plaisir, je pourrais envoyer le fichier PDF pour ceux qui veulent aller faire un petit benchmark. Mais globalement, ouais, c'est de capter quels sont les feedbacks par rapport aux plateformes. Puis après, c'est demander un appel avec un commercial de la plateforme et d'expliquer le projet et de voir quel serait le coût associé. Parce qu'en fait, quand tu t'enregistres, il y a des plateformes qui vont te mettre à disposition ce qu'on appelle un account manager qui va gérer la relation entre les affiliés et l'annonceur. Tu as des plateformes qui te laissent en autonomie. Donc, il faut que tu aies quelqu'un dans ton équipe qui anime le programme d'affiliation auprès de tes affiliés. Donc après, c'est à toi de voir en fonction de ton budget, tes moyens, tes ressources, qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça.
Peut-être qu'on peut tester, si au début, ça ne représente pas un énorme chiffre d'affaires potentiel, on va privilégier certaines solutions qui ne sont pas trop coûteuses. Et à partir du moment où on commence à bien développer et que ça devient un vrai canal d'acquisition et de vente, et qu'on peut, on peut réinvestir peut-être dans des solutions qui sont peut-être plus onéreuses, mais qui permettent aussi d'avoir plus de services.
Oui, tout à fait. Après, ça dépend si tu veux garder la main sur l'animation de ton programme ou est-ce que tu veux avoir un tiers au sein de la plateforme qui va du coup faire le lien entre les affiliés et toi.
Donc ça, je choisis ma plateforme d'affiliation. Donc, on mettra quelques noms ou le PDF de Romain. Étape numéro 4, maintenant que j'ai choisi ma plateforme.
C'est trouver des affiliés. Donc pour ça, il va falloir rechercher des affiliés qui soient actifs dans ma niche, dans la typologie des produits que je veux mettre en avant. Et pour ça, le plus simple, c'est d'aller regarder mes concurrents. Est-ce qu'ils ont des affiliés? Comment est-ce qu'ils font la promotion des produits ou des services? On peut utiliser les réseaux sociaux à base de hashtags. Donc rechercher hashtag affiliation ou les mentions des concurrents qui sont faites par leurs affiliés. On peut utiliser des outils comme BuzzSumo, permet d'identifier les influenceurs qui sont pertinents dans mon secteur. Et après, il y a des techniques un peu plus avancées où là, on va aller regarder les analyses de backlink. Donc en fait, c'est trouver les liens que font certains sites et qui pointent sur le site de mon concurrent.
Donc on va juste redire ce que c'est un backlink.
Ouais, donc en fait, moi j'ai un blog. Si le site côté maison fait un lien qui pointe vers mon site, c'est un backlink qui pointe vers mon site en fait.
D'accord. Un backlink, c'est en français, il y en a qui disent rétro-lien. Moi, je n'arrive pas à utiliser ce mot. Et donc, c'est un site qui pointe vers ton site. Donc, si demain, My Marketing Experience est affilié, je ne sais pas, par exemple, avec Notion, dont on parlait tout à l'heure, j'aurai un lien qui pointe, Notion aura un lien depuis mon site qui pointe vers le sien. Et ça, il y a des outils qui permettent de scanner des sites. On va dire scanner, c'est un mot un peu, c'est peut-être pas le mot exact, mais de voir, en fait, d'où viennent les liens qui pointent vers Notion. On parlait de Notion.
Exactement, parce que moi, en tant qu'affilié, j'ai plein de liens sur mon site qui pointent vers la Redoute, Maison du Monde, etc. Donc si demain, il y a un nouvel acteur de la déco qui souhaite mettre en place un programme d'affiliation, il va regarder quels sont tous les blogs qui font des liens vers la Redoute, et il peut venir me contacter en me disant « Voilà, je suis un nouvel acteur dans la déco, est-ce que ça vous intéresserait de travailler avec nous au travers de notre programme d'affiliation ?»
Si mes concurrents ne sont pas encore engagés dans ce genre de programme, parce que moi, j'ai décidé d'innover, de tester quelque chose. Alors, quand je dis moi, ce n'est pas forcément Sandy, mais je me mets à la place d'une entreprise qui voudrait le faire. Tu recommanderais quoi comment tu t'y prendrais, toi?
J'irais très simplement dans Google et je taperais blog plus le nom du secteur d'activité dans lequel je suis. Par exemple, tu peux taper, blog emailing et tu vas voir tous les blogs qui parlent d'emailing, blog newsletter, blog campagne marketing par email, et puis tu vas trouver des blogs qui créent des contenus par rapport à ces sujets.
Alors attention, moi, je vais quand même dire un truc sur les backlinks. Identifier un backlink, ça ne veut pas forcément dire que c'est un lien d'affilié. Hein. Ça peut être aussi... moi, je sais que j'ai des backlinks. On a la chance d'avoir un backlink de Canva, par exemple. Mais c'est Canva qui a un lien vers My Marketing Experience. Mais pour autant, dès qu'on a un lead, on ne verse rien à Canva. On remercie juste chaleureusement Canva. Donc, du coup, dans l'étape 4, je vais chercher mes affiliés. Tu les sélectionnerais comment, toi ? Est-ce que, genre, je vais taper dans le tas, qui veut bien travailler avec moi, je le prends, ou il faut être un peu sélectif ?
Tout dépend de la stratégie. Soit tu veux faire du mass market, soit tu veux être hyper sélectif quant aux personnes avec lesquelles tu veux travailler. Après, si c'est un premier test, moi, si c'était ma marque, je pense que je serais peut-être plus sélectif pour déjà tester avec un petit panel de personnes triées sur le volet. Et après, j'ouvrirai si je vois que ça produit des bons résultats. Après, tu peux ouvrir en mass market et puis te rendre compte que tu as des affiliés qui sont pas du tout alignés avec ton image de marque et leur couper l'accès à ton générateur de liens sur la plateforme. Et du coup, ils sont sortis de ton programme d'affiliation finalement.
Toi, tu dirais que il y a besoin d'avoir une taille critique pour engager ce type de stratégie, ou même si je suis une petite entreprise, je peux le faire?
Ah ouais, moi j'ai vu des petites entreprises démarrer et mettre tout de suite en place le programme d'affiliation pour enclencher le momentum sur les ventes, etc.
Donc même si ça prend du temps, parce que c'est sûr qu'il faut y accorder, on va le voir, il faut accorder un petit peu de temps, notamment pour ce qu'on va avoir après, d'animer sa communauté de VRP digitaux, on va dire. Mais il n'y a pas besoin d'être une grosse PME ou une multinationale pour mettre en place. Même une TPE peut le faire.
Ouais, et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut avoir une grosse taille critique pour pouvoir faire de l'affiliation, alors que pas du tout. Il y a des entreprises qui se sont lancées, et dans les semaines qui ont suivi le lancement, ils ont tout de suite créé le programme d'affiliation, ils ont dit, voilà, nous on ouvre les vannes de l'affiliation, qui veut devenir... En fait, ils n'ont pas de force commerciale, en fait. Donc les affiliés, c'est leur force commerciale.
Mais merci de briser ce mythe, parce qu'il a un peu la dent dure. Donc je recrute mes affiliés, je suis trop contente, j'ai réussi à en avoir quelques-uns, même allez, une dizaine, une quinzaine, une centaine. Étape numéro 5, comment je fais pour qu'ils vendent ? Souvent, j'imagine que les affiliés, ils ne sont pas affiliés qu'avec nous, ils en ont plusieurs.
Oui, l'idée, c'est de ne pas être dépendant.
C'est des multi-VRP.
Ouais. Il faut pas être... En fait, un affilié, son but, c'est de ne pas être trop dépendant d'une seule entreprise. Parce que si l'entreprise se retire de son programme d'affiliation, en fait, tu perds tout.
Donc, il perd tous ses revenus, oui.
Effectivement, il faut mutualiser, il faut répartir le risque. C'est la compétition par rapport à la rémunération, quelque part. Si l'entreprise donne des commissions qui sont compétitives par rapport aux concurrents dans le même secteur d'activité, l'affilié, finalement, s'il a le même taux de commission chez deux annonceurs, ce qui va primer, finalement, c'est la qualité du produit. Par contre, des fois, tu peux avoir un produit qui est légèrement mieux chez un annonceur, mais la commission est moins importante, il va être plus incité, finalement, à mettre en avant le produit qui est un petit peu moins bien, parce qu'il sait que lui, il touchera plus de commission sur ce produit-là.
Et est-ce que, parce que quand il y a un client potentiel qui vient sur ton site, il va cliquer sur le produit qui l'intéresse, mais après, ce qui se passe sur le site, ton affilié n'est plus responsable. C'est-à-dire qu'il vient sur ton site, c'est à toi de faire tout pour que ça convertisse sur ton propre site. Du coup, je me disais que si derrière la marque, elle ne fait pas en permanence de l'optimisation pour améliorer la conversion, ça pourrait lui faire perdre l'intérêt de ses affiliés. C'est-à-dire que finalement, j'ai peut-être préféré un produit où je me fais un peu moins d'argent, mais je ne vais pas dire une fois sur deux, mais quasiment une fois sur deux, je vais faire la vente, plutôt qu'un produit qui est plus cher. Mais finalement, comme ça ne convertit pas sur le site, je vais en vendre une fois tous les morts d'évêques.
Alors, c'est même pas du conditionnel, hein. C'est peu, c'est pas pourrait. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand je forme des blogueurs à faire de l'affiliation, je leur dis, quand ils sourcent des programmes d'affiliation, quand ils s'inscrivent à un programme d'affiliation, il y a plusieurs critères importants à regarder. L'un de ces critères, c'est le taux de conversion. Donc, ça veut dire que j'ai deux annonceurs, j'ai le même pourcentage de commissionnement. J'en ai un qui convertit à 30%, c'est-à-dire que quand je lui envoie 100 personnes, il y en a 30 qui achètent, et il y en a un qui convertit à 9%.
Tu n'as pas de poser 10 000 questions. Hein.
Bah oui, je vais mettre en avant celui qui convertit le mieux sur son site. Et moi, je vais te donner un exemple très concret. Aujourd'hui, la Redoute, en France, la Redoute est connue sur plusieurs générations. Moi, je me rappelle, étant petit, chez mes grands-parents, j'avais le catalogue La Redoute. Enfin, c'est connu, tout le monde a confiance en un La Redoute. Et il y a plein de nouveaux acteurs de la déco qui sont arrivés sur le marché, mais... moi, je me retrouve toujours à avoir La Redoute qui est connue de tous les Français et qui a un facteur de confiance sur le site qui est très important, avec d'autres annonceurs qui arrivent que les gens ne connaissent pas. Donc, du coup, le taux de transformation, il n'est pas le même. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, avec les marques avec lesquelles je travaille, je négocie des rémunérations hybrides. Ça veut dire qu'un La Redoute, moi, je sais que ça convertit de folie. Donc, en fait, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, un annonceur qui veut travailler avec moi et pour lequel je suis intéressé de collaborer, je vais lui dire, bah, aujourd'hui, moi, je veux bien collaborer avec vous, mais je veux pas prendre 100% du risque. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on partage les risques. Donc, avoir du CPA, c'est OK. Par contre, moi, je demande en plus du CPC. Pourquoi? Parce que moi, je suis un créateur de contenu. La création de contenu va me coûter la même chose que ce soit un contenu pour vendre du La Redoute ou pour vendre une autre marque. Donc, du coup, je dis à l'annonceur, si vous êtes convaincu de vos produits, dans ces cas-là, on fait 50-50 sur le risque, vous me payez du CPC, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vous envoie un prospect qualifié, bah vous me payez. Parce que derrière, vous êtes sûr que vous allez convertir à un moment donné. Et du coup, c'est pas moi qui prends l'entière responsabilité du risque que le client, le prospect ne convertisse pas en client.
Donc, en tant que marque, si je mets de l'autre côté, je peux proposer des programmes d'affiliation. Si je suis un peu nouveau et que j'ai en face de moi des gros acteurs pour devenir compétitif face à eux, auprès de, des affiliés, je pourrais très bien proposer un programme d'affiliation hybride où je vais à la fois proposer du CPA, évidemment, ça me paraît la base, mais également, ce que tu disais,
du CPC, du coup, par clic.
On peut faire ce système hybride. Donc, comme ça, c'est très incitatif. En travaillant parfois directement avec certains affiliés, on peut récolter du feedback sur son marché.
Ouais.
Ça, c'est vraiment un moyen de faire une étude de marché, pas comme on l'entend au sens traditionnel. Mais je veux dire, quand tu es, toi, si je prends ton exemple, tu es créateur de contenu et tu produis énormément de contenu sur le sujet de la décoration d'intérieur. Donc, tu connais très bien les tendances. Tu connais très bien ce qui est le plus recherché aussi par ton audience. Ça, c'est une mine d'or pour une marque qui veut atteindre ce marché. On arrive à la sixième étape, qui est d'entretenir. Tu nous as dit tout à l'heure, vous avez des petits VRP, mais c'est votre équipe commerciale externalisée. Donc, il ne faut pas les laisser dans la nature. Il faut les chouchouter, il faut s'en occuper, parce que sinon, ils vous oublient, quoi.
Ouais, et d'ailleurs, c'est une des étapes qui est les moins, sur laquelle les marques investissent le moins, moi, je trouve. Effectivement, entretenir la relation, c'est communiquer avec ses affiliés. Donc,
c'est l'expérience affiliée, en fait. Hein.
Exactement. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, souvent, il y a l'annonceur d'un côté, il y a l'affilié de l'autre, et au milieu, il y a une plateforme d'affiliation, avec souvent un account manager. Et parfois, la ligne téléphonique est cassée entre l'annonceur et l'affilié. Parce que finalement, l'annonceur parle à l'account manager, l'account manager parle à l'affilié, et l'affilié reparle à l'account manager, et voilà. Et moi, les meilleures relations que j'ai, c'est des relations tripartites, en fait, où tous les trimestres, tous les semestres, on a un call avec l'annonceur, l'affilié et l'account manager. Et on se parle et on se dit, le bilan des 3 derniers mois, des 6 derniers mois, qu'est-ce qu'on met en place pour les 6 mois à venir parce que moi aussi, aujourd'hui, on fait pas mal de promotions, d'articles sponsorisés pour les marques. Donc, on a des périodes charnières, on a des marronniers dans la déco, typiquement le Black Friday qui va arriver. On est sollicité par les marques pour créer du contenu spécifiquement pour cette opération, parce que c'est une opération charnière d'un point de vue commercial pour ces entreprises-là. Donc nous, en tant que bon VRP qu'on est, on essaye de créer du contenu aussi pour cette période-là, d'autant plus que on sait qu'il va y avoir des offres promotionnelles qui vont être faites, on sait qu'on est dans une récession économique, donc les gens attendent quand même le discount, la période promotionnelle pour acheter. Donc nous, on va booster nos commissions pendant cette période phare, et l'annonceur pour lequel on travaille, finalement, c'est aussi dans son intérêt. Donc, c'est une relation gagnant-gagnant. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour animer une relation. Typiquement, la base, c'est de fournir du matériel promotionnel. Donc, ça se fait de moins en moins, mais il y a encore pas mal de sites qui utilisent du display. Donc, c'est des bannières publicitaires. Donc, chaque entreprise peut fournir des bannières dans différents formats pour des opérations spéciales. Par exemple, tu as un La Redoute, le Black Friday arrive, tu mets à disposition de tes affiliés plein de bannières, format carré, rectangulaire, horizontal, avec la charte graphique de ton Black Friday pour l'opération qui vient. Tu peux avoir aussi des tutos. Donc, par exemple, si tu as un logiciel spécialisé dans le SEO comme SEMrush, tu peux mettre à disposition de tes affiliés du matériel éducationnel, des tutos pour expliquer à tes affiliés, enfin pas à tes affiliés, mais à ton audience en tant qu'affilié, comment fonctionne SEMrush, comment bien l'utiliser, etc. Après, moi, ce que je vois beaucoup dans la déco, c'est des événements, des ateliers qui sont organisés par les marques pour présenter les nouvelles collections. Donc typiquement, on est convié au même titre que la presse écrite à des présentations presse pour découvrir en avant-première les nouvelles collections. Donc tout le monde sort son téléphone pour faire des stories, des reels. Donc ça
ah oui, c'est génial ça. Mais il y a plein aussi d'événements digitaux, des sommets, des choses comme ça où tu peux organiser ça pour, parler des tendances ou faire un sommet virtuel, un sommet digital. Et finalement, c'est la marque qui l'organise derrière. Il y a PlayPlay qui fait ça par exemple pour mettre en avant sa marque, et derrière, pas tout 100% des gens sont des affiliés, mais il y a des affiliés.
C'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut voir les affiliés comme des gens à part entière qui sont là pour promouvoir vos produits et vos services. Donc, c'est vraiment vos commerciaux. Alors, ils sont multimarques, mais il faut arriver à développer une relation de confiance et une relation qui dépasse le cadre simplement de la collaboration entre annonceurs et affiliés. Moi, aujourd'hui, quand j'ai quelqu'un de la Redoute au téléphone en direct qui me dit bah, « Romain, t'es notre top 3 des affiliés en France, on a envie de faire plus de choses avec toi, à quoi tu penses, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme opération ?» Bah, finalement, tu sens que le travail que tu as fourni depuis des années et que tu essaies de faire de qualité, bah, c'est récompensé parce que bah, la marque valorise ça et a envie d'aller encore plus loin dans la collaboration avec toi.
Romain, je vais récapituler les 6 étapes parce que c'est super important. Moi, je suis fascinée. Là, ça me donne envie de courir, ouvrir un programme d'affiliation. Donc, la première étape, définissez vos objectifs. La deuxième étape, c'est qu'on choisit un modèle de rémunération, de commission. Et là, on a vu qu'il y avait... En fait, il n'y a pas qu'un seul modèle. On peut créer des modèles hybrides. Et ça, je ne savais pas. Et je trouve ça hyper intéressant. Le troisième, c'est qu'il faut sélectionner sa plateforme d'affiliation. Tu nous as donné plusieurs noms et tu nous as dit, bah, globalement, si vous pouvez aller passer un ou deux coups de fil à des gens pour savoir ce qu'ils en pensent, bah, c'est toujours mieux. Mais vous avez quand même le choix. Il n'y en a pas que deux sur le marché, rassurez-vous. Il y a vraiment
Vous me contactez sur LinkedIn et je vous répondrai.
Bah, on mettra tes coordonnées sur LinkedIn. Pas ton lien à LinkedIn, pas ton numéro de téléphone.
Non.
L'étape 4, c'est que bah, vous allez identifier vos affiliés, que ce soit par, ça peut être par la plateforme, mais vous pouvez le faire vous-même en direct également. Étape 5, si je ne me trompe pas, c'est de faire des propositions qui incitent, hein, c'est-à-dire on va faire de la promotion, de comment faire mieux la promotion de ses produits. Et la dernière étape, la 6e, c'est de ne pas oublier d'offrir une bonne expérience à ses affiliés qui sont bah, son équipe commerciale externalisée. Et donc, il faut les traiter, leur offrir une bonne expérience. Tu nous l'as très bien dit d'ailleurs, qu'après, quand ça marche à l'affect et quand il y a des marques qu'on aime beaucoup, on a encore plus envie de les soutenir. Romain, j'avais envie de te poser une dernière question. Déjà, merci pour tes partages. Je trouve ça absolument fabuleux. Romain, est-ce que tu as une situation à nous partager où tout ce qu'on a dit pourrait être résumé, on va dire, incarné dans un exemple ?
Oui, bah notamment le focus sur le dernier point, pour en revenir aux marques avec lesquelles moi j'ai un affect, typiquement La Redoute. La Redoute m'a proposé fin 2015 un tournage dans ses locaux à Roubaix. À l'époque, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur, je travaillais en banque. Et j'ai tout de suite décliné la proposition par peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi.
Parce que tu étais encore salarié à l'époque.
Ouais, j'ai lancé mon blog quand j'étais cadre sup chez BNP Paribas. Et j'étais en costume cravate, je me disais mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, mes collègues, s'ils me voient en train de faire de la déco chez La Redoute. Et en fait, ça a été la pierre fondatrice du passage de j'ai un blog déco en mode amateur à j'ai envie de me professionnaliser, j'ai envie de vivre de cette passion. C'est vraiment cette première étape et c'est pour ça que j'ai un affect avec La Redoute qui est assez fort aujourd'hui parce que bah, du coup j'ai fait ce tournage, ça s'est bien passé et quand je suis rentré dans le TGV en région parisienne, j'ai décidé que j'allais essayer de tout faire pour en vivre, de vivre de cette passion. Et quelques années plus tard, en 2021, j'ai quitté mon job salarié pour vivre de ça et j'ai acheté une maison en Bretagne, j'ai quitté la région parisienne et aujourd'hui je vis à temps plein de cette passion. Et quand j'ai emménagé dans ma nouvelle maison en Bretagne, je ne sais pas pourquoi, mais le destin sans doute, La Redoute me recontacte en me disant « on refait une opération avec certains blogueurs, on aimerait que tu fasses partie du casting ». Et en fait, ils m'ont aménagé tout mon salon, salle à manger, avec que des produits La Redoute. Donc j'ai eu la dotation complète. En fait, ils m'ont dit « tu choisis tous les produits que tu veux chez nous et on t'aménage la pièce et on fait le tournage vidéo chez toi en Bretagne ».
Trop, trop bien. Je trouve l'histoire absolument géniale et je comprends que tu aies cette relation particulière avec cette marque qui fait complètement partie de ton histoire et de ton parcours en fait.
Ouais, et c'est pour ça que je te dis, entretenir la relation avec ses affiliés, créer la relation humaine avec ses affiliés et pas juste les traiter comme des gens qui sont juste là pour générer du chiffre d'affaires.
Même pas des gens, des sites.
Ouais, des sites, ouais, impersonnels.
Ou des personnages virtuels.
Et ça change tout en fait. Ça change vraiment tout. Et quand on rencontre physiquement les gens lors des événements presse, etc., il y a vraiment des belles relations qui se tissent.
Génial, j'adore. Un grand merci d'être venu sur le plateau, l'immense plateau de Marketing Podcast.
Merci à toi pour l'invitation, c'est trop cool.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser un 6 étoiles. Oui, moi, j'ai envie de laisser plus d'étoiles que ce qui est disponible sur Apple Podcast et sur Spotify. N'hésitez pas aussi à envoyer des bravos à Romain sur les réseaux sociaux. Si vous voulez m'en envoyer, moi je suis toujours preneuse, j'adore aussi qu'on m'envoie des petits mots sympas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. À très bientôt !